voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotta.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h10 à Paris, bienvenue dans tous les cinémas du monde. Alors au sommaire de l'émission, le festival de Berlin, hein, puisque dans une trentaine de minutes, Sophie Torlotin va tout nous raconter hein, sur cette nouvelle édition, la nouvelle équipe, la compétition, le marché du film, et puis l'anniversaire, hein, puisque la Berlinale souffle cette année ses 70 bougies. On reviendra aussi bien sûr hein, sur la cérémonie des Césars hein, qui s'est tenue à la salle Pleyel à Paris hier soir. Mais avant, on va parler d'un documentaire exceptionnel sorti en salle ce mercredi. Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre et des dettes.
Il mio sol troppo fier troppo altier. Il mio sol troppo fier troppo altier del mio grande.
Bonjour Rodolphe Marconi.
Bonjour.
Cyril, votre personnage, il a 30 ans, il a repris la ferme de ses parents il y a 6 ans, hein, au moment où on le découvre. Il vit toujours avec son père dans une petite maison qui appartenait à ses grands-parents. Il aimerait bien se payer, hein, Cyril, se verser un salaire même minuscule, mais c'est impossible parce qu'il est étranglé par les dettes. Entre autres, il a dû emprunter 260 000 euros. Pour construire une étable aux normes. Alors, combien de paquets de beurre à 3 euros pièce faut-il vendre pour rembourser 260 000 euros? C'est l'une des questions que l'on se pose en voyant votre film, Rodolphe Marconi. Une question parmi tant d'autres, hein, car au-delà du portrait de Cyril, vous décrivez aussi tout un système. Alors, je n'en dis pas plus, car vous avez accepté de vous prêter au jeu de la première bobine, donc le commentaire des 10 premières minutes de votre film. Donc, c'est parti. Alors, extérieur jour, on voit un homme qui marche dans une forêt. On est où?
On est à 40 km de Thiers, dans une forêt où il n'y a que des pins, que des pins, que des pins. C'est magnifique. Et c'est le premier jour de tournage, je crois même. C'est un peu avant Noël. Et il part dans la forêt pour de scier un sapin. Parce que Cyril, il ne va pas acheter son sapin dans une grande surface quand c'est Noël. Et donc,
il n'y a pas d'argent pour ça?
Non. Et puis, ils ont toujours fait ça, je crois, dans la famille. Donc, ils scient un sapin, et puis ils le traînent comme ça jusqu'à la voiture.
Cyril, on va le voir traverser la rivière. Il y a un plan sur ses jambes. Et puis, on va entendre une voix off.
Juillet 2018. Depuis 3 jours, sur une plage de la côte atlantique, un garçon s'avance dans la mer. Jusqu'aux genoux, pas plus. Il ne se baigne jamais. Une après-midi, je vais lui demander « Pourquoi tu ne te baignes pas ? Il faut se lancer, tu verras, elle n'est pas froide. » Il me répond qu'il ne sait pas nager. Je lui demande d'où il vient. Il s'appelle Cyril, il a 30 ans, il est agriculteur laitier en Auvergne. C'est la première fois de sa vie qu'il part en vacances. Il n'avait jamais vu la mer.
Alors, cette voix off, Rodolphe Marconi, c'est la vôtre. Vous racontez votre rencontre avec Cyril. Comment vous avez décidé de ce dispositif? Parce qu'en fait, on va attendre très très longtemps avant qu'il ne parle.
Oui, parce que c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup et je ne voulais pas le forcer. Dans le film, tout est comme ça d'ailleurs. Donc peut-être que quand il traverse cette rivière et qu'on voit ses bottes avec la lumière comme ça qui réfléchit dessus, c'est aussi parce que on prend le temps. Je pense que le public va être le témoin de notre rencontre, puisque quand je suis arrivé en Auvergne, je l'avais rencontré en juillet 2018, donc je l'avais vu une journée dans ma vie, un été, et je le connaissais pas plus que vous. Donc j'ai commencé par le filmer un peu de dos, un peu les jambes, et voilà. Et c'est un peu une façon de nous faire entrer dans le film, quoi.
On entre en douceur, un peu comme vous, vous êtes entré dans sa vie en douceur. Alors là, on le voit couper un sapin, évidemment c'est un sapin de Noël, et puis il va se coucher, et le titre apparaît. Il est venu tout de suite, ce titre. Ce titre très long, hein, Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes.
Non, ce qui est venu tout de suite, c'était Cyril, le titre Cyril. Et les producteurs ont dit, mais c'est quand même un peu dommage, c'est juste un prénom. Les distributeurs surtout, pardon, ont rajouté tout ça pour qu'on sache un peu de quoi il s'agissait, quoi. Mais au départ, ça s'appelait Cyril, uniquement. C'est un film sur lui, c'est pas un film sur les agriculteurs, c'est compliqué. Donc, voilà, je sais pas.
Et là, on va passer de la nuit aux premières lueurs de l'aube. Hein. Cyril se couche et puis il se lève. On entend par la bande-son, par les oiseaux, entre autres, qu'il est encore très très tôt. Je dis les premières lueurs de l'aube, mais c'est quasiment la nuit, non?
En fait, quand on le voit se coucher, c'est par la fenêtre. J'aimais bien l'idée des premiers jours comme ça, où moi, j'avais pas encore accès à lui, à sa chambre, à sa maison. Donc, le premier plan, c'est ce que vous décrivez. Je trouvais ça assez beau de le voir se déshabiller à travers une fenêtre au loin. Les premières lueurs, oui, c'est le matin. Et bizarrement, en Auvergne, comme vous pouvez l'entendre, puisqu'on n'a rien triché, il y a énormément d'oiseaux qui piaillent. Et il y a cette lumière qui arrive, qui est en fait une pile électrique dont il se sert pour ouvrir le portail avant de monter dans sa voiture, comme tous les matins. Il fait tous les matins la même chose pour partir au bâtiment avec son chien.
Il a accepté tout de suite que vous le filmiez, Cyril, parce que vous entrez vraiment dans son intimité.
Oui, alors je pense qu'il a dit oui sans imaginer ce que ça voulait dire. Non, je le soupçonne d'avoir accepté en se disant au moins je serai pas tout seul, puisque je lui ai demandé de venir le filmer pendant 3 semaines. En fait, je suis resté 4 mois pratiquement. Mais il s'est dit ouais, je serai pas tout seul, quoi. On s'en est pas parlé. Je lui ai pas dit je vais faire ça, on va faire ça. C'était un peu inconscient de ma part, de la part du producteur aussi, de la part de tout le monde, je crois. Est-ce qu'on peut approcher la vérité si on a déjà tout prévu? Je suis pas sûr. J'étais tout seul, donc de toute façon, j'engageais personne avec moi sur le tournage, on va dire.
Vous étiez à la caméra, au cadre, à la lumière?
Au son. Et la lumière, c'était que de la lumière naturelle, donc j'avais le rapport avec la caméra comme avec un appareil photo, c'est-à-dire qu'il n'y a que le diaph qui pouvait faire que la lumière allait être un peu plus dense, contraste. Ou, voilà.
Allez hey, mamie.
Alors la séquence suivante, elle se passe dans une étable. Hein, c'est la fameuse étable qui a coûté 260 000 euros à Cyril.
Non. Là, c'est l'étable de la maman. C'est l'héritage en fait du poids, on va dire familial. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'étable dans lequel cette vache va véler. Et le bâtiment, c'est autre chose. C'est ce qu'il a fait construire pour mettre toutes ses vaches, c'est-à-dire les 35 vaches qu'il avait au départ.
C'est là où on le voit traire les vaches.
Voilà, avec la salle de traite, et c'est là où elles dorment, c'est là où elles mangent. Donc cette étable qui est assez belle, parce que je pense que les toiles d'araignées n'ont pas été enlevées depuis 40 ans, à peu près. Il y a une lumière dans cet endroit qui est fou, et quand je suis arrivé, je le suivais, et quand je suis rentré là, et que j'ai vu cette vache qui était en train de véler, c'était fou, j'arrivais pas à... Je voulais m'approcher le plus possible. Alors c'est vrai que c'est une scène un peu crue. C'est la naissance, toutes les naissances sont crues. En fait. Donc, voilà, je voulais rien. De toute façon, je me suis pas posé la question, c'était instinctif. Je filmais tout et au plus près.
Attends. Vas-y, je tire. Attends, tu me dis, hein. J'ai pas de derrière, pourtant. J'ai pas de devant, j'ai pas de tête. Tu veux dire? Mais la tête, la tête, viens, pousse. Et là-bas, baissez là-bas la tête. En arrière, la tête. Et mais comme il faut. La tête, elle est en arrière.
Faut payer tout alors.
Non, t'occupe pas. Espèce d'étourdi, c'est comme ça. Je suis chopé par une oreille.
Et c'est compliqué de filmer comme ça, parce que c'est une scène. Alors, on pourrait se dire aujourd'hui, tout est moderne, une vache qui vèle, il y a des équipements, etc. En fait, non, hein, on voit très bien le côté très, très physique du truc. Et puis vous êtes au milieu avec votre caméra, il y a des box partout.
Alors, il y avait même pas le boss, puisque dans cette étable, il y a 5 vaches. Donc, c'était la plus près de la porte de la grange. Mais je filmais en essayant de pas les gêner, on va dire, avec le cœur qui battait un peu, parce qu'on sent, ils m'ont transmis leur tension On sent qu'ils ont tous peur. Ils ont peur que le veau naisse mort, ce qui peut être une cata pour eux, ou que la vache meure en vélant, ce qui arrive aussi. Donc il y a une tension comme ça, et en même temps, vous savez, à ce moment-là, quand vous filmez, qu'il y a quelque chose d'intense qui se passe, vous réfléchissez pas, vous êtes prêt à vous faire marcher dessus. Ça m'était arrivé, on va pas parler de ça, mais ça m'était arrivé avec Karl, quand je l'avais suivi.
Votre documentaire sur Karl Lagerfeld.
Qui arrive sur le podium pour aller chercher Nicole Kidman en plein milieu du défilé. Et moi, je l'ai suivi. Jamais personne n'avait fait ça. Et j'ai failli me faire virer par Chanel, d'ailleurs.
Et justement, enfin, vous parlez de Karl Lagerfeld, mais justement, on a l'impression que vous aimez beaucoup filmer des gens au travail. Même si entre Cyril et Karl, on est un peu aux deux extrêmes.
Ah, j'ai fait le grand écart. Au travail, je sais pas, parce que Karl, justement, j'ai essayé de le filmer aussi beaucoup dans des moments où il travaillait pas.
D'intimité.
Ouais. Non, mais Cyril, en fait, j'ai fait le film parce que je l'ai rencontré, parce qu'il m'a raconté son histoire. Et en effet, vous avez raison, s'il n'avait pas ce travail-là, s'il n'était pas dans cette situation-là, je l'aurais peut-être pas filmé. Probablement.
Mais oui, oh là là.
Alors le plan suivant, on n'est plus vraiment avec Cyril. Là, pour le coup, c'est le premier plan large sur la ferme,
oui,
qui est magnifique. Et puis les vaches, au loin, qui vont au pâturage.
C'est bizarre parce que j'étais resté à distance et c'est son moment en fait, c'est le début de l'après-midi en général. Donc après la traite du matin, après il leur donne à manger, etc. Il va écrémer le lait et puis ensuite il les sort à l'extérieur. Et c'est vraiment un moment qui n'appartient qu'à eux, il leur parle.
Il leur parle, c'est sa famille quoi, enfin, on a l'impression que c'est ses amis.
Oui, et puis il y a une espèce d'interaction, je ne sais pas si vous avez...
Ils les engueulent un peu.
Ouais, il y en a une qui a mauvais caractère, alors il lui dit oui mais hier t'as fait ça, aujourd'hui non. Alors il leur parle comme si c'était des humains, d'ailleurs il le dit à un moment, il dit mais les seules personnes à qui je parle c'est mes vaches et mon chien. Mais il s'est construit tout un monde avec elles, c'est assez étrange. Et elles aussi, elles savent les matins où il ne faut pas l'emmerder lui, parce qu'il a trop de...
Trop de soucis.
Ouais. On a l'impression qu'elles sentent. Et puis quand il est disposé à rester un moment avec elles dans le pré, alors là, elles en profitent un peu, il y a tout un truc. Ouais, c'est étrange.
T'aimerais bien être à leur place parfois.
C'est clair, j'aurais la belle vie.
Tu aurais la belle vie.
Ah oui, j'aurais la belle vie.
Mais elle est quand même belle, ta vie.
Ouais.
Et le plan suivant, alors là, c'est très différent, puisque on comprend que vous êtes dans la voiture avec Cyril, vous parlez.
Ah oui.
Et là, c'est un moment très, très curieux du film.
Mais oui, c'est très bizarre. En fait, donc les vaches sont sorties, c'est vraiment dans la chronologie que ça se passe. Il re-rentre les vaches, il les fait re-rentrer donc, dans le bâtiment, sauf une partie. Il y a une partie qui reste dehors. Et puis il remonte dans la voiture pour rentrer à la maison. La maison est à 800 mètres, mais il prend quand même la voiture. On est dans la voiture et je le vois regarder, continuer à regarder ses vaches. Mais ça dure. Et je trouvais ça fou qu'il puisse... Il avait passé l'après-midi avec ses vaches, mais même dans la voiture, il continue à les regarder de loin, sans parler. Et j'ai laissé ce moment. Puis à un moment, je lui ai demandé s'il aurait aimé être à leur place, quoi. Voilà. Et il m'a dit, bah oui, comme ça, j'aurai la belle vie.
Ah, c'est ça, la belle vie, parce que vous lui dites que c'est une belle vie. Et quand il vous répond, on a l'impression qu'il y a un peu d'inquiétude quand même dans sa voix. Il n'est pas si convaincu que
ouais,
ça.
Parce que je dis, mais elle est quand même belle, ta vie. Et il me dit, oui.
Rodolphe Marconi, je vous propose qu'on s'arrête là pour le commentaire plan par plan des 10 premières minutes de votre film. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous vous attendiez, est-ce que vous avez été surpris par la solitude de ce jeune agriculteur? Parce que dans ce plan que vous venez de raconter, vous êtes un peu son confident. On n'a pas l'impression qu'il en a 10, des confidents.
La solitude, je l'avais comprise, enfin ressentie en tout cas dès ce premier jour où je l'avais vu sur la plage. Mais ce que j'avais sous-estimé, c'était tout ce qui va avec et autour, quoi. C'est-à-dire cette espèce d'annulation permanente de toute la vie, ce que nous on appelle la vie, de tous les plaisirs du quotidien. Cyril, il est jamais allé prendre une bière dans un bar. Il est jamais allé manger une pizza dans un restaurant.
Il n'a pas le temps.
Il n'a pas le temps, il n'a pas l'argent. Qu'est-ce qu'on fait le soir? On traite les vaches et après on écrème le lait. Il n'y a aucun moment, le dimanche c'est pareil, le samedi, le jour de Noël, les vacances. Il n'y a pas de vacances. Donc à partir du moment quand il a commencé à se livrer un petit peu, à me parler, c'est vrai que ça m'a soulagé moi, pas uniquement pour le film, mais aussi parce que j'avais l'impression que ça le soulageait lui, en fait. Et c'est là où j'ai compris qu'il n'a personne à qui parler. Il le dit d'ailleurs dans le film qu'avec son père, il ne se parle pas.
Et c'est un film qui reste de bout en bout très doux, mais sur une situation dont on va comprendre peu à peu, hein, qu'elle est quand même assez, assez tragique. Est-ce que vous pourriez nous la raconter ?
En fait,
il est criblé de dettes ?
Oui, en fait, pour faire court, il décide de s'installer. Évidemment, à cause des normes et de tout ça, on est obligé de faire un bâtiment. Il ne peut pas exercer dans la ferme de sa maman, dans les étables, etc. Il fait un emprunt. Au départ, ça roule, il a 35 vaches, ça marche bien. Et puis, il y a deux étés de sécheresse, l'un après l'autre.
Et les vaches meurent.
Et 8 vaches qui meurent. C'est-à-dire qu'il en achète 10, il y en a 8 qui meurent. Et donc, ces trois paramètres-là font qu'il commence à descendre. Et peut-être que, pour appeler à l'aide, il faut accepter une part d'échec. Et que parfois, quand on est comme ça dans une campagne très reculée, qui a beaucoup de voisins, qui a un papa aussi qui n'est pas tendre, ben, on n'ose pas. On n'ose pas dire « je crois que je suis en train de me planter » ou « je crois que ça ne va pas bien » ou « je crois que ça... il va se passer quelque chose ».
Et... parce qu'il parle souvent du regard réprobateur de son père. Et on comprend que ce n'est pas seulement lié à son homosexualité qui va être dévoilé progressivement dans le film.
Par rapport à l'homosexualité, je trouve qu'on n'est pas dans le cliché auquel on pourrait tous s'attendre, genre l'homosexuel à la campagne, c'est dur, etc. Parce que c'est quelque chose qui posait pas de... Je pense que son père aurait préféré qu'il en soit autrement, ça c'est sûr. Mais c'était pas une récurrence, c'était pas un sujet, on en a d'ailleurs jamais parlé. Il a jamais vécu ça comme un problème, bizarrement.
Son père lui reprocherait plutôt d'être un mauvais fermier. Mais alors, pourquoi ses parents s'en sortaient? Et pas lui.
Mais oui, mais à l'époque, vous pouviez... parce que donc son père travaillait à l'usine. C'est sa maman qui avait donc deux étables avec quelques vaches. Comme ça se faisait beaucoup à la campagne. Vous aviez des vaches, deux cochons, des poules, des canards. Et puis vous arriviez à vivre comme ça, les légumes, le jardin. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de vendre son lait sur le marché. Cyril part vendre son beurre sur le marché dans une glacière. Je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait même plus le droit. Il faudrait qu'il soit dans des bacs spéciaux ou je ne sais pas quoi. Tout devient très, très compliqué. D'ailleurs, un voisin m'a dit, vous savez, dans le temps, on allait acheter le lait à la ferme. Et ça faisait des bons gaillards, des grands gaillards, bien, bien forts. Personne n'était fragile. Et aujourd'hui, avec toutes les normes, tout le monde est fragile et tout le monde tombe malade. C'est vrai que peut-être si Cyril, par exemple, avait pu vendre son lait sur le marché. Parce que quand il ne fait pas assez de lait, le Sodiaal ne vient pas le chercher. Donc qu'est-ce qu'on fait du lait? On
en
fait
Sodiaal, qui est la grosse coopérative, qui le paye une misère, en fait.
Ben, disons que le litre de lait est acheté 30 centimes. Donc quand on voit qu'il est revendu 1 euro, 1 euro 50, 2 euros parfois... ça pose question quand même.
Et du coup, on a l'impression, enfin, on s'aperçoit au fil du film que pas mal de clichés, enfin, le film démontre pas mal de clichés aussi sur les agriculteurs, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que l'agriculteur d'antan qui vit en autarcie, c'est pas du tout le cas. La solidarité entre agriculteurs, ça c'est vraiment un cliché que démontre le film parce qu'on s'aperçoit qu'il est quand même très très seul.
Oui, moi ça m'a surpris, hein, qu'il n'y ait pas de solidarité, que les voisins ne se parlent pas, qu'on ne va pas demander de l'aide. C'est cette situation-là. J'ai rencontré un agriculteur au salon de l'agriculture il y a 4 jours qui m'a dit que lui, c'était différent. Il faisait les moissons tous ensemble. Chacun les uns, après, vous voyez, vont les faire chez les uns, chez les autres. Donc c'est un... Mais dans ce coin-là de l'Auvergne, c'était particulier, on va dire. Voilà.
Pourquoi c'était particulier
Parce que c'était très étrange. Moi, je n'ai pas été reçu non plus... C'était très difficile, hein, psychologiquement. Toutes les portes se fermaient. Quand il a porté les noix au moulin, j'ai pas eu le droit de filmer. Alors que c'était un moulin magnifique en granit qui avait 500 ans. Enfin, c'était sublime. Non, c'était très difficile. Son père voulait pas que je le filme. J'ai pu le filmer à ce déjeuner parce que bon, il rentrait d'un apéro bien arrosé, donc il était plus cool ce jour-là, il m'a laissé le filmer, mais sinon, non, on nous a mis que des bâtons, enfin, on ne m'a mis que des bâtons dans les roues. Sauf Cyril, qui acceptait tout, je filmais ce que je voulais, comme je voulais.
Comment vous avez compris, Rodolphe Marconi, que Cyril était à un tournant de sa vie?
Je l'ai compris...
C'est le tournant, je le dis, hein, c'est le dépôt de bilan, c'est la faillite.
La liquidation judiciaire, ouais. Je l'ai compris, au début, je voulais y croire. Parce qu'en fait, entre le moment où j'ai voulu faire le film et le moment où je suis arrivé, la situation avait beaucoup évolué. C'est-à-dire quand je suis arrivé, il m'a dit, ben voilà, il y a le redressement judiciaire qui va se mettre en route, quoi. C'est pour ça que je me suis dit, je ne veux pas partir au bout de 3 semaines. Et j'avais l'impression que qu'il y avait encore un espoir, qu'on pouvait faire quelque chose, que le film montre un agriculteur qui s'en sort, quoi. Et malheureusement, ça s'est pas passé vraiment comme ça. Je ne sais pas si j'ai compris que ça allait mal se terminer. Je l'ai souhaité à un moment. C'est horrible de dire ça. Je l'ai souhaité. J'ai dit à Cyril, là, dans la situation...
Pour le sauver, lui ?
Ouais.
Parce que vous aviez l'impression qu'il allait se tuer au travail ?
Mais pas que se suicider, c'est sûr.
Il y a un agriculteur par jour qui se suicide. Vous avez l'impression qu'il est passé très, très près de ça ?
C'est pas qu'une impression, mais je veux pas... Voilà, mais... C'est sûr que si c'était pas comme ça, il serait plus là aujourd'hui, c'est, je le sais. Et donc, en même temps, il y a la fierté de la personne qui, et je comprends, parce qu'on est tous comme ça, de se dire, mais non, 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 moi je vais y arriver, moi je vais, non, je vais pas flancher. Je priais pour que le tribunal prononce la liquidation judiciaire et qu'il se sorte de là et qu'il arrête. Et surtout, je trouve qu'il mérite de connaître la vie. Il y a des gens, on a l'impression que si on les met ailleurs, ça n'ira pas, ils s'en sortiront pas, ils pourront pas. Cyril, il sera très très bien, vous l'avez vu, à quel point les quelques personnes qu'il voit au marché, quand il leur vend le beurre, ou celle qui sert au resto, il est très très sociable, il leur parle, il est joyeux, il semble un peu heureux. Il a aucun problème pour communiquer avec les gens, alors c'est ça qu'il faut qu'il fasse, il faut qu'il aille dans un endroit où il y a un peu de gens, un peu de monde.
On a l'impression que vous, Rodolphe Marconi, vous avez occupé une place dans ce film, enfin lors de ce tournage, qui arrive très très rarement, même quand on fait beaucoup de documentaires.
Peut-être parce que j'étais tout seul, sans équipe, et qu'on a fusionné hein, à un moment. Il y a une journaliste qui m'a demandé, alors je vois à peu près ce qu'elle voulait sous-entendre, et à la fin elle me l'a demandé carrément, en gros, est-ce que vous avez couché avec Cyril ? Alors ça m'a tellement blessé parce que, enfin, je crois que quand on voit le film, on voit bien que c'est pas ça. On est au-delà de ça. Oui, il y a un trouble. Évidemment, il y a un trouble. Vous avez vu quelqu'un une fois dans votre vie sur une plage et six mois après, vous le filmez en slip dans sa chambre. Mais c'était pas de cet ordre-là. C'est juste que j'étais complètement avec lui. Je suis parti avec lui, pour lui. Et j'étais seul, donc je pouvais pas me cacher derrière un caméraman. Souvent, vous parlez des autres documentaires, je veux critiquer personne, mais c'est très facile parfois la place du réalisateur qui est dans un coin. La pièce, et puis qui dit à son cadreur, ça faut le faire, ça va être bien pour le film, va le filmer là, regarde, il est en train de faire ça. Non, là moi je me cache derrière personne, si je veux filmer, c'est moi qui dois être face à lui, la caméra, donc je dois tout assumer en fait.
Il y a un moment crucial du film, c'est une huissière de justice qui vient saisir sa voiture. Alors là, on a vraiment l'impression que vous jouez, vous, Rodolphe Marconi, et votre caméra, un rôle crucial.
C'était fou.
Vous sauvez sa voiture.
Ben, disons que je me suis resté, vous avez vu, je me cache un peu derrière la fenêtre. D'ailleurs, on voit qu'il y a une amorce de fenêtre, bon, parce que je reste à distance, que je me dis, si elle me voit avec une caméra, elle va se demander ce que c'est. Même si, en général, en effet, les huissiers ne préviennent pas quand ils viennent, donc on n'aurait pas pu le savoir. C'était dingue qu'elle arrive à ce moment-là, puisque c'est au moment où il y a cette aide associative qui est présente. Enfin, on aurait voulu faire du Fedo, on n'aurait pas pu faire mieux, quoi. Cette femme qui vient pour récupérer la bagnole. Alors oui, c'est vrai que là, on en voit une dans le film. Il y en a eu plusieurs qui sont venues pendant mon séjour. Et comme je dis, en ce moment, je me retenais vraiment de ne pas leur coller mon poing sur la gueule, quoi. Parce que un huissier, il fait son travail, c'est normal. Mais quand il arrive face à une situation pareille, dans un contexte pareil... On a envie de lui dire, mais rentrez chez vous, et puis vous voyez bien qu'il n'y a plus rien à prendre, de toute façon. Donc, qu'est-ce que vous faites là, quoi ?
En fait, c'est un monde, on s'aperçoit que c'est un monde très dur, qui n'est plus fait pour les petits, pour les petites fermes comme celle de Cyril.
Eh bien, c'est exactement la question. Alors, est-ce qu'on se dit, le monde n'est plus fait pour ces petits agriculteurs, ces petites exploitations ? Ou est-ce qu'on se dit, réfléchissons à comment, justement, au contraire, en faire plus, les faire différemment, les accompagner différemment, augmenter le prix du lait ? On nous dit quand même toute la journée qu'il faut qu'on retourne vers les petits producteurs, les légumes, il faut qu'on mange sain, etc. Vous êtes d'accord ?
Qu'on mange local.
Voilà, et qu'on mange local, absolument, surtout. Donc, il faudrait que tout ça tienne ensemble. C'est à nous aussi de... On ne peut pas faire passer notre temps à critiquer le gouvernement, les lobbies, etc. C'est à nous, dans la vie de tous les jours. À Paris, c'est compliqué, je vous l'accorde. Mais en province, vos légumes ne sont pas plus chers chez le petit producteur que dans une grande enseigne.
Vous, qu'est-ce que vous avez appris de ce film ? J'imagine qu'au départ, l'image que vous faisiez d'une petite ferme perdue dans la nature, qui est très belle, hein, alors ça, vous lui rendez vraiment hommage à cette beauté dans votre film. J'imagine qu'à la fin du film, vous en étiez quand même très très loin.
Oui.
De cette image un peu bucolique.
Quand on s'appelait donc à l'automne, Et qu'il me racontait donc qu'il était allé chercher les pommes, qu'il faisait le jus de pomme, et puis le cidre. Puis après, il était allé chercher les noix, qu'il emmène au moulin, etc. Donc oui, vous êtes réalisateur, vous rêvez d'images comme ça, de monde oublié, un peu, dont tout le monde rêve en ce moment. Vous avez remarqué, depuis un an ou deux, tout le monde rêve de campagne, tout le monde rêve de fleurs, tout le monde rêve d'arbres. Bon.
C'est comme ça que vous expliquez le succès incroyable du film avec Guillaume Canet. Vous expliquez aussi le succès de petits paysans.
Alors, je sais
pas. On a l'impression. Moi, j'étais étonnée parce que d'une certaine façon, il vous dit moi, j'ai le sentiment d'être pris pour un moins que rien. Et en fait, au contraire, on a l'impression qu'avec la fétichisation, il y a une espèce de fétichisation de la figure de l'agriculteur. C'est notre trésor national vivant.
Moi, je
en
pense,
France.
Mais elle est nouvelle. Elle est nouvelle, cette image qui est en train de se produire. Je me compare pas aux autres films. Je me sens dans leur prolongement. Moi, en tout cas, ils ont permis d'ouvrir la porte à un très large public. Et moi, j'arrive derrière en leur disant, voilà, alors, par contre, voilà, la réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'acteur. J'étais pendant 4 mois sur un matelas, je dormais sur un matelas, je me douchais une fois par semaine, j'avais des bottes dans la bouse de vache du matin au soir, et je peux vous rendre une vérité, voilà.
Et vous êtes allé au salon de l'agriculture. Ça vous a pas totalement dégoûté
non, mais
du
moi,
monde de l'agriculture.
Ah, mais moi ça m'a pas du tout dégoûté, parce que même Cyril, je comprends qu'aujourd'hui il veuille plus en entendre parler, parce que ça a été très douloureux, mais pour moi ça reste quand même un métier magnifique, quoi. Et je veux pas justement, j'espère que les gens ne seront pas dégoûtés de l'agriculture. Au contraire.
En voyant votre film.
Oui, au contraire, qu'ils se disent, mais il ne faut surtout pas se dire qu'aujourd'hui, le monde n'est plus fait pour les petites exploitations. Ce qu'essaient de dire beaucoup de gens. Il ne faut pas se dire ça, il faut se dire le contraire.
Et il faut accepter de payer son lait peut-être un petit peu plus cher.
Exactement.
Merci beaucoup, Rodolphe Marconi.
C'est moi, merci beaucoup.
Je rappelle le titre de votre film, Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes. Super documentaire en salle depuis mercredi. Voilà, on fait une petite pause musicale avec Ayo, un titre de son nouvel album, Royal. Retrouvez-nous dans 3 minutes pour parler des Césars et du Festival de Berlin qui s'achève ce dimanche.
Made a promise when I spoke my vows. I said in my heart only you can house. And there will be thunder and there might be quakes, but a wall built of love surely never breaks. I won't love you no less, just more. Rest assured, in you I found what I've been looking for. Rest assured, I won't love you no less, just more. Rest assured.
La 70e Berlinale s'achève demain dimanche. Alors ce soir, on aura le palmarès. Hein, qui des 18 films en compétition remportera l'Ours d'or décerné par le jury présidé par Jeremy Irons. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth.
Voilà, vous venez de poser vos valises et vous allez nous donner votre palmarès personnel. Les films qui vous ont marqué lors de cette édition anniversaire.
Voilà, hein, le jingle de la Berlinale qui se déclenche avant chaque projection officielle. La Berlinale qui s'est ouverte le 20 février dernier sous une tonalité grave, sombre, quelques heures avant la cérémonie. Une double fusillade perpétrée par un militant d'extrême droite faisait 11 morts à Hanau. Ce qui fait que Mariette Riesenbeck, la co-directrice de la Berlinale, demandait à toute la salle de se lever pour une minute de silence.
Den Opfern zu gedenken.
Voilà sous quels augures hein, s'est ouverte cette 70e Berlinale, un festival qui arrive traditionnellement après Venise et avant Cannes et qui se démarque de ses concurrents par une aura traditionnellement plus politique. Un festival que l'ancien directeur Dieter Koslik a fait grandir, ouvrir aux productions américaines. Un duo lui a succédé avec donc Mariette Riesenbeck et à la direction artistique Carlo Chatrian, qui a soigneusement sélectionné les films de grands auteurs reconnus comme les nouveaux longs-métrages du sud-coréen Aung San-Suu, du français Philippe Garrel, ou bien des nouveaux venus comme les brésiliens Caetano Gotardo et Marco Dutra, par exemple. Et puis donc toujours cette touche politique avec l'invitation faite à l'ukrainien Oleg Sentsov, libéré des geôles russes, ou à l'iranien Mohamed Rasoulov, assigné à résidence. Carlo Chatrian.
Le cinéma est toujours un miroir du monde. Je pense que les films n'ont pas le but de changer la société, mais les films peuvent changer notre point de vue sur la réalité, ce qui est le premier pas pour comprendre mieux l'autre. Après, le fait que la Berlinale soit un festival plus politique, c'est vrai, ça fait partie de son histoire, ça fait partie de l'histoire de Berlin. Et j'ai conscience qu'un film présenté ici, dans cette ville, qui a une très grande conscience de son histoire, de son présent, devient plus politique. Donc j'ai conscience de cela. En même temps, quand je sélectionne les films, j'essaye d'être concentré sur la valeur du film. Parce que le but d'un festival, c'est de présenter les films ici, à Berlin, mais aussi de les lancer dans leur carrière, dans les cinémas. Et donc ça, au bout de compte, c'est ce qui doit rester.
Oui, donc la Berlinale garde, on l'a bien compris avec Carlo Chatrian, sa tonalité politique et engagée. Et d'ailleurs, Sophie, on le voit très bien apparemment cette année dans le fort contingent de films brésiliens.
Oui, alors déjà, dans le jury, il y a Kleber Mendoza Filho, dont Bacurau était en compétition à Cannes cette année. Et puis, cette fois à la Berlinale en compétition, Marco Dutra, vous aviez, je crois, adoré son précédent long métrage, Une histoire de loup-garou.
Oui, formidable.
Et Marco Dutra fait un film avec Caetano Gotardo, Todos os Mortos, Tous les morts, raconte la coexistence dans le Sao Paulo de 1900 de deux familles. L'une, blanche, regrette sa gloire, sa richesse passée, et l'autre, noire, est en fait composée de ses anciens esclaves qui ont été libérés depuis l'abolition et qui sont restés à son service.
Quero ver o pai.
Não vai ter chão pra gente lá.
Pior que aqui não deve ser.
Caetano Gotardo explique avoir voulu, avec ce film mis en chantier bien avant l'élection de Bolsonaro, parler des origines de la démocratie brésilienne, puisque le film se situe au tout début de la République.
All the Dead Ones, the title, it's about people who came before us and...
Ce titre, Tous les morts, évoque tous ceux qui nous ont précédés. D'une certaine façon, ils sont toujours parmi nous et ce passé continue à hanter le présent. Cela peut être positif. Par exemple, la famille Nascimento, la famille noire, arrive à intégrer ses ancêtres, alors que la famille Suarez, la famille blanche, tente de conserver ses anciens privilèges perdus. C'est une façon de s'accrocher au passé. Donc, il y a plusieurs rapports au passé, et c'est une façon aussi de créer des fantômes. Par exemple, la jeune héroïne Anna voit des fantômes, ceux de leurs anciens esclaves, mais ce sont des projections de son esprit malade. On voulait montrer que la façon dont notre société est organisée a rapport avec ce passé.
Avec ces personnages d'anciens esclaves, vous vouliez montrer aussi toute la diversité des origines africaines ?
Yeah, exactly. Brazil is, you know, around 55% of the population is from.
Oui, au Brésil, environ 55% de la population a des origines africaines. Mais on ne connaît pas bien tous les cultes africains. Bien sûr, certains ont continué à pratiquer leur religion en secret. Une forme de résistance, car ils ont été persécutés pendant des années. Mais c'est rare de parler de ces sujets. On voulait évoquer ces sujets dans le film. Il y a différentes nations, des cultes venus de différents pays africains, car on a trop souvent tendance à mettre tout le monde dans la même case, mais c'est une culture très riche et complexe.
That has many sides to it.
Alors un film Tous les morts qui raconte les fantômes qui planent sur le Brésil actuel, mais d'autres fantômes planaient sur la Berlinale.
Oui, alors c'est peut-être lié à l'effet anniversaire, 70e Berlinale, et puis 50 ans de sa section tête chercheuse, le Forum. Sa nouvelle directrice Christina Nord programme tous les films de 1970 de la première édition, alors des films comme les documentaires de William Klein ou de Howard Hawks sur les Black Panthers, ou encore le film manifeste du franco-mauritanien Medondo, un film intitulé « Soleil haut ».
Pardonnez-moi mon père, j'ai parlé peu. Pardonnez-moi mon père, j'ai parlé bambara.
Pardonnez-moi mon père, j'ai parlé créole.
Pardonnez-moi mon père, j'ai parlé lari.
Father, forgive me for speaking Amharic.
Pardonnez-moi mon père, j'ai parlé bamoun.
Pardonnez-moi mon père, je parle.
Christina Nord.
Un film très très beau sur un jeune homme d'Afrique qui essaye se vivre à Paris. Il est en face de beaucoup de racisme. Le film date de 1970 Et vous savez qu'il y a eu un attentat raciste ici en Allemagne, à Hanau. Il y a toujours cette urgence, cette actualité. Les films de la première édition ont quelque chose à nous dire aujourd'hui. Ils parlent fortement.
Voilà, donc Soleil Haut qui parle du racisme, un racisme encore malheureusement trop présent dans nos sociétés. Soleil Haut à revoir au Forum. C'est dans cette section que j'ai trouvé plusieurs pépites, comme Traversée de l'Ivoirien Joël Akafou. Il a suivi un de ses compatriotes qui a réussi à parvenir en Italie après mille dangers, la Libye, la traversée de la Méditerranée. Et maintenant, il attend à Turin de pouvoir se rendre en France. Joël Akafou.
C'est Touré Enza Junior, alias la haute bourgeoisie française.
On le suit, lorsqu'on le prend dans le documentaire, il est à Turin et il refuse de rester dans un endroit qu'il appelle El Campo. C'est quoi cet endroit ?
Le Campo, en temps normal, je dirais, c'est des centres d'accueil pour réfugiés. Et ça existe en France, je pense, en Italie, on appelle ça des campos. C'est des camps, en fait, pour les migrants. À la différence, je dirais, de la France, en Italie, c'est vraiment difficile, les campos. C'est à l'image d'une prison, en fait.
On comprend, quand on voit votre film, qu'il y a tout un système, enfin, que ces migrants, justement, en fait, ils sont les envoyés de toute une famille qui compte sur eux pour leur subsistance, leur survie. Il n'y a aucun espoir au pays, même quand on est diplômé.
Ouais, il y a moins d'espoir, je dirais pas, il y a plus d'espoir, mais il y a moins d'espoir aujourd'hui au pays après cette crise qu'a connue la Côte d'Ivoire de 2002 jusqu'à 2011. Et le chômage est devenu de plus en plus grandissant. Il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir investir dans le pays. C'est pas que la Côte d'Ivoire est pauvre ou soit les activités marchent pas. Non, les choses marchent, mais il faut avoir de l'argent, il faut avoir des aides pour pouvoir investir. Mais quand t'as personne, tu fais comment ? Plein de jeunes ivoiriens comme africains mais décident de partir vers l'aventure pour essayer d'aider la famille. Et Bourgeois, il a, je pense, trois sœurs et trois frères. Et du coup, pour lui, il va là en Europe pour pouvoir avoir un peu d'argent et aider ses parents à investir et lui aussi à se construire une maison. Il me disait, je vais faire le transport. Si j'arrive à m'acheter deux, trois bagnoles pour faire le transport en Côte d'Ivoire, je retourne au pays.
Et ce film-là, Traversé, justement, il est pour le monde, pour l'Afrique ?
C'est pour nous, les hommes sur Terre. On dit la globalisation du monde. Quand une partie du monde est touchée, les répercussions adviendront sur tout le reste du monde. On ignore, on s'est dit, ok, c'est les Africains qui meurent, ça gêne personne. Là, aujourd'hui, il y a coronavirus, on s'est dit, c'est la Chine, ok, on se protège. Mais qu'est-ce qu'on fait pour aider une partie du monde à chaque fois que le monde a mal ? Et ce film, pour moi, on s'est dit, quand il y a les crises dans un pays en Afrique, ne soyez pas étonnés en Europe, nous, ni en Amérique, ni aussi en Asie, que les gens qui cherchent à quitter là, où tout se passe mal, pour venir vers vous.
Un autre documentaire qui montre l'Afrique dans la mondialisation, Sophie, c'est Days of Cannibalism de Teboho Atkins.
Alors c'est un cinéaste blanc originaire du Lesotho, ce pays enclavé d'Afrique du Sud. Teboho Atkins filme les effets de la mondialisation dans son pays, l'installation de commerçants chinois dans un village reculé de ce petit pays traditionnel dont l'économie repose sur l'élevage.
Il y a plein de Chinois différents. Et c'est pas du néocolonialisme. Il y a beaucoup de gens qui disent it's a wave of neocolonialism. Pour moi, c'est pas vraiment ça. Mes Chinois c'est une famille. C'est une famille, un petit clan qui s'est installé. Et plus en plus, il y a les cousins, les tantes, la famille qui sont venus pour travailler 5-6 ans et font les petits business, les petites épiceries qui vendent tout.
Oui, ils installent des magasins.
Voilà, ils s'installent des petits magasins. À la même temps, il y a aussi les Chinois qui sont venus pour faire les rues, qui construisent un parlement, qui construisent un stade de foot. Mais ça, ce sont les Chinois qui sont plutôt officiels. Et la mienne, ils n'ont rien à voir avec le gouvernement chinois. Forcément, il y a du tension dans la population parce qu'ils voient les gens qui arrivent, qui commencent à faire vraiment l'argent. Et donc, ça donne beaucoup, beaucoup de petits moments de tension. Et mon film s'est concentré sur ces petits moments, les petits gestes, les moments entre les gens pour comprendre la frustration des gens. Parce qu'en fait, les deux côtés sont frustrés. Il y a les Africains qui sont frustrés qu'il y a les étrangers qui viennent, qui font du business. Et ils ont compris, ils sont là que pour du business. Et les Chinois qui sont frustrés parce qu'ils travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup et ils n'ont pas vraiment une vie très, très malheureuse. Donc, ils sont un peu tous alcooliques, ils habitent un peu dans leur isolation et c'est une situation dont les deux camps ne sont pas contents.
Voilà, Teboho Atkins, hein, pour son film Days of Cannibalism. Et puis Sophie, vous vouliez reparler d'un documentaire que vous avez beaucoup aimé, c'est Narges A, de Karim Aynouz. Alors Karim Aynouz, il a remporté à Cannes le prix Un Certain Regard, hein, il y a quelques mois, pour La Vie Invisible de Redis Guzmão, film superbe. Et là donc, il présente son nouveau film, il présentait à la Berlinale son nouveau film sur le Hirak, donc le mouvement populaire en Algérie, ça s'appelle Narges A.
Oui, alors Narges, c'est le prénom d'une jeune femme de 28 ans, Narges Asli, actrice, militante, qui manifeste tous les vendredis dans les rues d'Alger depuis un an. Elle avait fait le déplacement à Berlin avec donc Karim Aynouz.
Pourquoi Narges? C'était un peu un accident. En fait, j'avais envie que ce soit une femme parce que c'était le 8 mars. J'ai dû suivre une femme qui était au milieu des manifs et qui était une activiste. Et on a rencontré des amis qui font du casting et qui font beaucoup de travail en Algérie avec des comédiens, que c'est Sarah et Fouad, qui m'ont présenté par photo des personnes. Une des personnes, c'était Narges. Et il y avait un truc qui s'est passé quand j'ai vu sa photo et quand on s'est vu la première fois physiquement, et c'était comme ça. C'était vraiment pour l'intuition que je me suis dit, c'est important de suivre quelqu'un de très très jeune. Et je ne savais pas en fait l'histoire de Narges au point de vue de l'activisme, de sa famille et tout ça. Et c'était un peu un accident. C'était une bonne coïncidence.
Parce que vous le dites à un moment en voix off, Narges, vous êtes vraiment, vous avez presque la révolution dans le sang.
Ouais, je pense que c'est le cas en fait. Parce que je viens d'une famille qui s'attache trop à l'Algérie malgré elle, je pense. Parce que j'ai les grands-parents maternels qui sont martyrs, qui sont morts.
Pendant la guerre d'indépendance ?
Oui, pendant la guerre de l'indépendance. Mon grand-père est mort avant la naissance de ma mère. Ma mère est née en prison. Mon père s'est battu pour l'Algérie. Son père, mon grand-père paternel aussi, il a travaillé pendant la guerre de l'indépendance. Et du coup, ils nous ont juste transmis cet amour de l'Algérie, ce devoir, cette responsabilité, ce sentiment de se sentir responsable. Et surtout, ils nous ont mis dans la conscience que on est obligé de contribuer avec ce qu'on peut pour cette Algérie. Et je pense que Kelly m'a donné l'occasion de contribuer de la manière qui me parle le plus, qui est l'art, et offrir quelque chose pour l'Algérie, pour le peuple algérien.
Oh là là !
Alors Karim Aynouz, on sait que évidemment l'image, le fait de suivre, on est tout le temps en immersion dans la foule avec Narges, c'est très important. Donc ça, j'imagine, c'était un enjeu de toujours presque l'avoir à l'image. Mais alors vous avez particulièrement travaillé le son. On est vraiment, quand on voit le film, on a l'impression d'être au milieu de la foule.
Oui. Mais en fait, mon grand souvenir de manif, c'était les sons. En fait, les images étaient là. C'est drôle, quand j'ai commencé la première manif que je suis allé, c'était le premier, et ça me rappelait du carnaval. Il avait un truc avec les Brésils qui m'a vraiment impressionné. Mais mon souvenir après, c'était les sons, et c'est pour ça que je trouvais que c'était très important, d'un côté, de reproduire ma mémoire de cette expérience, mais je trouve aussi que le son, on a tellement vous savez, on a tellement des images qui sont sur YouTube, sur partout, sur des manifs. Pour moi, c'était très important qu'on puisse se sentir dans cette situation, parce que je crois que ça nous donne envie de faire plus, ça nous donne envie de manifester, en fait, quand on en fait un truc comme ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé les sons. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et il a une espèce de passage dans les manifs à Alger, qui c'est une espèce de rite de passage, qui c'est ce tunnel. On a la sensation qu'on est emprisonné pendant qu'on passe, et après on se libère. Alors c'est quelque chose de... c'est très très beau, c'est très très beau. Et c'est les sons que j'écoutais au tunnel qui m'a dit que ce film soit un film... C'est important que ce soit un film d'immersion et pas simplement un film d'observation.
Karim Aynouz pour son film Narges A. Vous, Sophie, votre ours d'or. C'est un doc?
Non, c'est pas un doc. Ça serait la comédie, la dernière comédie de Gustave Kervern et Benoît Delépine, Effacer l'historique. Donc, en compétition, vraiment, je les remercie parce que j'ai beaucoup ri. Et je pense qu'on reparlera du film qui va sortir en salle mi-avril.
Oui, qu'on n'a peut-être pas ri tant que ça cette année à la Berlinale. Bah, écoutez, en attendant la cérémonie de clôture et puis la remise de l'ours d'or, on va revenir sur une autre cérémonie, alors bien plus houleuse, puisque c'est celle des Césars, qui se tenait à Paris, à la salle Pleyel. C'était hier soir.
Je déclare avec fierté et émotion, la voix trahit tout, ouverte la 45e cérémonie des Césars et musique. Écoutez.
Voilà, c'était hier soir, salle Pleyel à Paris, la 45e cérémonie des Césars, la grande fête du cinéma français avec la voix de Sandrine Kiberlin, la présidente de la cérémonie, et puis la musique, la célèbre musique de la nuit américaine de François Truffaut. Une cérémonie sous tension, sur fond de réformes attendues, de vives protestations contre les 12 nominations du J'accuse de Roman Polanski, dont l'équipe d'ailleurs n'est pas venue. Alors le résultat, une cérémonie totalement déroutante, du jamais vu, à commencer par son final explosif.
Le César de la meilleure réalisation est attribué à
Roman Polanski pour J'accuse.
Il confirme son statut de recordman de la catégorie avec 5 Césars. Il a emporté à chacune de ses nominations Tess, le pianiste, Ghost.
L'Académie remettra ce César à qui de droit ce soir à l'issue de la cérémonie.
Puisqu'ils ne sont pas présents.
Peut-être.
Un absent qui triomphe, c'est Roman Polanski décrochant le César du meilleur réalisateur, et une actrice qui quitte la salle en fureur, c'est Adèle Haenel, suivie de sa réalisatrice Céline Sciamma et d'une dizaine d'autres spectateurs. Puis un silence glacial, un grand moment de trouble avant que la présidente de la cérémonie, Sandrine Kiberlin, n'attribue le César le plus convoité.
Et le César du meilleur film est attribué à Les Misérables, produit par Tufi Kayadi, Christophe Barral de la Jeep.
Bon, je suis très ému, très content, très fier. J'ai quand même préparé un petit discours que je vais vous lire. Alors, je tiens à remercier les membres de l'Académie et les 2 millions de personnes qui sont allées voir Les Misérables en salle. Les Misérables, ce ne sont pas que les habitants des cités. La misère touche, hélas, de plus en plus de Françaises et de Français. On m'a souvent demandé quelle était la morale de ce film. Elle est simple. Nous vivons dans un pays blessé et c'est la pauvreté qui divise les Français. Il est temps de baisser les armes, il est temps de s'unir. Il est temps de montrer qu'on fait tous partie du même pays. La France est notre pays. Faisons-en un grand pays. Le seul ennemi, ce n'est pas l'autre, c'est la misère. Merci à vous.
Le discours de Lajli, plus de 2 millions de spectateurs ont vu son film Les Misérables. Les Misérables, le baptême du feu d'un jeune policier de la brigade anticriminelle en banlieue parisienne. Un film également couronné du César du public, du montage et du meilleur espoir masculin. César de la meilleure actrice Anaïs de Moustier pour Alice et le maire. Et meilleur acteur Roche Dizem pour son rôle de policier sans peur et sans reproche dans Roubaix, une lumière d'Arnaud Desplechin. Autre gagnant de la cérémonie, La Belle Époque de Nicolas Bedos, de César, meilleur décor et meilleur second rôle pour Fanny Ardant, de César aussi pour Papicha de Mounia Medour, meilleur premier film et prix du meilleur espoir féminin pour Lina Koudry. Alors que retiendra-t-on de ces 45e César? Eh bien peut-être le contraste entre cette cérémonie qui s'est vraiment tenue, c'était du jamais vu, sous le signe du féminisme et de la diversité, et puis ce palmarès final, où le portrait de la jeune fille en feu, qui était pourtant considéré comme l'un des favoris, brille par son absence. Un seul César technique, celui du montage pour le film de Céline Sciamma. Ça sonne comme une gifle, et Adèle Haenel, elle-même pressentie pour le César de la meilleure actrice, qui repart en claquant la porte. Et bref, de bout en bout, ces 45e César auront symbolisé la fracture du cinéma français, et sans doute plus largement celle de la société française à l'ère post-MeToo. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Lequéré.
À la réalisation, Fanny Renard. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma.